quelques lapins blancs au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Exterminate.
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, follow.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Il est 22h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous souhaitez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Ici Seb au micro, vous êtes dans les voies du scénarium. Je ne vais pas vous tenir la grappe très longtemps puisque nous avons une émission très chargée avec en première partie, la première partie justement d'une interview qui va se dérouler sur plusieurs épisodes, une interview de Patrick Massad qui gère OBA Édition. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à l'écouter. Et puis dans un second temps, nous aurons le plaisir de retrouver Thierry, Cyril et moi-même, Maël, que j'ai failli oublier, dans la troisième et dernière partie du scénario Cthulhu, imaginé et masterisé par Thierry. On commence tout de suite avec Patrick Massad, qui nous parle d'OBA Édition et de la structure. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et donc tu es rôliste, sinon on ne serait pas là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu es venu au jeu de rôle et de ton parcours un petit peu?
Alors effectivement, je suis rôliste. J'ai commencé le jeu de rôle il y a longtemps. Mais ce ne sont pas les années qui font la qualité du rôliste. Je suis tombé petit dedans. J'étais en cinquième. C'est l'histoire classique de tous les rôlistes de mon âge. Il y a un pote qui est venu, qui nous a dit « Ouais, j'ai une partie, on va faire un jeu de rôle. » Et puis, j'ai mis le doigt dedans. Puis ensuite, on a fait du donjon avec la boîte rouge. Et puis ensuite, tu dépenses toutes tes économies pour acheter les bouquins. Donc, ça a été principalement du D&D puis du ADD, première édition. Donc groupe d'amis, collégiens puis lycéens, avec des groupes épars, c'est-à-dire en fait il y avait un groupe principal et puis en fait il y avait énormément de joueurs à disposition à cette époque-là, ce qui fait que Voilà, tu vas jouer chez les amis d'amis, tu fais des rencontres. Il y avait quelques clubs, mais c'était des clubs plutôt réservés pour les adultes, on va dire. Donc, je fréquentais très peu de clubs jusqu'au début des années 90, où là, bah, en fait, j'ai monté mon propre club avec des gens qui étaient que je connaissais. Que dire de plus ? Bah, en fait, ça n'a pas arrêté depuis. Ça a été du jeu de rôle sans discontinuer. Donc, plein de jeux de rôle. Très clairement, principalement du super-héros, donc Marvel, DC. En permanence, il y avait derrière, en fait, on avait des campagnes plutôt ADD. On a testé tous les jeux de rôle en fait des années 80. Une partie des jeux de rôle des années 90, parce qu'il commençait à y avoir une production de plus en plus importante. On a fait du vampire, puis du werewolf. Après, bah en fait, il y a eu des créations de systèmes, d'univers que je ressortirais peut-être ou pas, parce que c'est des choses qui sont très personnelles, principalement des scénarios, et l'objectif c'était de sortir aussi mon jeu de rôle, ce qui ne s'est pas fait à l'époque parce qu'il y avait déclin du jeu de rôle, parce qu'il y avait pas nécessairement non plus la motivation, puis il y avait le boulot qui commençait, mais ça nous a pas empêché de continuer à jouer au jeu de rôle. C'est-à-dire qu'en fait on est passé de une partie et demie par jour à deux parties par semaine, donc on a vachement ralenti notre rythme. On a été un peu hypé par la troisième édition, la proposition de la troisième édition. Moi, à la fin des années 90, bah en fait, j'ai découvert l'internet puisque c'est devenu mon métier. Donc j'ai énormément traîné en fait sur les internets. Et donc je suis tombé sur The Forge, c'est un site communautaire américain où des joueurs indépendants, des créateurs indépendants en fait proposaient une autre perspective concernant le jeu de rôle. C'était très intéressant. Il y a pas mal des jeux.
Une émulsion en fait qui se crée, c'est ça.
Ouais, il y a pas mal de jeux qui sont derrière moi en fait qui sont originaires de The Forge. C'est vraiment des propositions.
Je précise pour les auditeurs en fait que derrière Patrick, vous avez une grosse bibliothèque qui ferait pâlir d'envie beaucoup de rôlistes. Il y a quelques trucs qui, à mon avis, sont. Moi, j'étais pas né, hein, pour être tout à fait honnête.
Donc, oui, ouais.
C'est de ça que parle Patrick.
Après, en fait, ce qui est intéressant, c'est le partage autour d'une table. C'est pas les morceaux de papier qu'il y a derrière moi. Les morceaux de papier, ça témoigne en fait d'une créativité. En fait, c'est ça qui est important. Voilà. Et en fait, The Forge m'a permis, on va dire, de step up, de changer de mon mindset. De The Forge, en fait, sont nés tout ce qu'on connaît en fait depuis on va dire les années 2000-2010. Les mouvements narratifs, etc., etc. J'ai ralenti un petit peu mon temps de jeu à une partie par semaine, en fait, à la naissance de ma fille. Et puis, bah après, il y a eu du World of Warcraft, il y a eu tout plein de choses. Et c'est début 2008 à peu près où, en fait, j'ai commencé à faire des créations pour mes potes, parce que ça me manquait énormément. Donc ça a été principalement des univers à base de systèmes, c'est grosso modo du D20 système, mais totalement alambiqué. Ça a été des tests de plein d'univers et de systèmes principalement américains. J'ai très peu accroché au système à des systèmes français. Et puis il y a eu un tournant à peu près 2012, où là, en fait, je concevais des jeux et des univers, en fait, pour qu'ils soient publiés. Donc, en fait, ils étaient rédigés, ils étaient écrits. Ça manquait de, ça manquait de maturité. Et puis j'étais dans une période où c'était un petit peu compliqué. Et puis en fait début 2015. À ce moment-là, en fait, je décide de publier un bouquin. Et donc, c'est là où je sors mes potes. En fait, si t'as pas publié ton jeu de rôle avant tes 50 ans, t'as loupé ta vie. Il me restait plus beaucoup de temps. Et c'est là, en fait, où l'ancêtre d'Imperium est né. Et c'est principalement ça qui m'a orienté dans la création de jeux de rôle. 2019, premier Octogone, il s'est fait totalement à l'arrache. En fait, au mois de juin, j'apprends qu'il y a un festival qui s'appelle Octogone. Et donc, à partir de ce moment-là, je demande à une amie qui est graphiste de travailler sur la maquette. Je trouve Pani, qui est donc l'illustratrice principale d'Imperium 5. Elle me fait des dessins, on fait les personnages. Et en 2019, en fait, on arrive avec un petit livret façon alpha, hein, voilà, très 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 basique, qu'on n'a même pas distribué. C'était vraiment pour que les gens le feuillettent, voilà, parce qu'il y avait des coquilles, il y avait des trucs et on voulait pas. Gros travail ensuite jusqu'à Cannes, puisque là, en fait, le petit livret de 30 pages s'est transformé en deux livrets d'à peu près 80 pages en tout. Celui-là, on l'a distribué. Donc, en fait, on a imprimé les feuilles de personnages, des trucs, enfin, bref. Celui-là, il était distribué gratuitement. On en a distribué 75. Les gens ont été hypés. Donc là, je me suis dit, si t'as la qualité, si t'as le respect des gens et que, t'acceptes les critiques qu'ils te font, tu peux faire quelque chose. Et même si c'est pas de niveau professionnel, tu peux avancer, puisqu'en fait je suis parti du principe qu'en ayant un bagage, une expérience dans le monde du travail, dans le monde du print, dans le monde du web, le marketing, etc., tu appliques ça au jeu de rôle et voilà. C'est pas, pour moi c'est pas plus compliqué que ça, hein. Enfin, il y a pas de magie,
c'est une méthode, une recette qui s'applique à un autre univers, quoi.
Ouais, c'est tout. C'est bon, voilà. C'est-à-dire, tant que tu respectes les gens à qui tu vas fournir un jeu et qu'ils s'amusent, derrière, tu peux, t'organises ton équipe, tu gères les délais de chacun, tu respectes leur manière de fonctionner, tu les rémunères. Bref, quand tu gères une entreprise en bon père de famille, comme on dit en France. Le Covid, ça a été un peu compliqué. Et puis, il y a eu 2021, le premier Octogone où on s'est déplacé. Je trouve que on a été très, très, très bien accueillis. Il y a eu un petit coup de chance, qu'on a orienté, puisqu'en fait, je me suis rendu compte que peu de gros allaient venir. On pouvait être une des seules grosses nouveautés. Donc, j'ai pris un gros stand, on a mis le paquet sur la communication, on a fait d'autres illustrations, etc. Et donc, en fait, à partir de 2021, c'est là où les choses sont devenues sérieuses. Voilà. Non seulement, en fait, je me suis dit, OK, je vais pas juste sortir un financement participatif pour Imperium. On va sortir un financement participatif pour Imperium, mais dans le but de le distribuer aussi en boutique, ce qui est pas la même échelle. Et puis, il y a eu la rencontre avec Guillaume Jantet juste avant, et on s'était amusé à faire Super Bâton RPG. Voilà. Donc là, je me suis dit, en tant que auteur, je peux même me mettre de côté. Et me dire, je peux aussi avoir le rôle d'éditeur. Et je peux avoir différents niveaux. C'est-à-dire que je peux être éditeur en tant que conseiller, critique, aide pour la personne pour qu'elle puisse écrire. Et je peux être aussi maquettiste et intermédiaire avec les imprimeurs, avec les boutiques, etc. Donc c'est vraiment en fait très large, le métier d'éditeur. Selon l'investissement, etc. Une fois que t'as le coup de cœur et que t'as une certaine confiance avec les gens avec qui tu vas travailler, tu peux t'éloigner et te dire bah ok, je m'occupe de la partie on reviendra peut-être dessus, mais je m'occupe de la partie graphique, de la partie illustration, de toute la partie maquettage, et je te donne pas de contraintes à toi auteur. Fais-moi un truc parce que je trouve que t'as quelque chose, t'as le style et t'as un univers qui me plaît. Voilà. Et puis t'as d'autres types de projets où le projet est initié par un auteur. Il a des idées, ils peuvent avoir des idées très très fortes. Après, bah faut un peu canaliser, etc. Donc ça demande un peu plus de temps. Voilà.
Et dans la structure OBA, t'es salarié ou pas du tout?
Alors dans la structure UBA. Alors j'ai leurré mon monde depuis 2019, d'accord. C'est extrêmement simple de leurrer les gens. C'est en fait tu fais des cartes de visite qui déchirent. Tu fais de la communication, tu crées un super site web. Tu te présentes en tant que structure éditoriale. Mais en fait jusqu'à 2022, UBA édition n'existait pas. Voilà.
D'accord.
Ben, édition, c'était moi, tout simplement. Et là, en fait, avec l'année 2023 qui nous attend, le financement participatif, j'ai monté une structure. Je ne suis pas salarié de ma structure. C'est une SAS unipersonnelle qui va me permettre, en fait, de gérer toute la partie comptable. Tu peux le faire. Ça demande juste des finances. Voilà, ça c'est clair.
Un cadrage, je pense, assez propre quand même.
Il faut un minimum de cadrage. Il faut pas un cadrage hyper propre et strict, d'accord? Parce que tu sais, enfin, ça c'est ma manière de faire. Je travaille dans une société, je suis manager, et voilà, je manage à ma manière. Ça se passe bien, voilà. Donc en fait, moi, mon but, c'est de rendre les gens autonomes et de leur dire, bah, ok, c'est cool, là, ça a l'air de bien avancer. Et ensuite potentiellement de les réorienter pour que ça aille du côté d'OBA, puisque il y a une relation de prestataire avec les gens, même si après on développe des amitiés, mais il y a tout de même ce côté prestataire. Tu dépenses de l'argent, il faut que t'obtiennes au minimum ce que tu souhaites. Après, faut être coulant avec les gens, mais c'est quelque chose qui est gérable. Qui me demanderait peut-être là en ce moment peut-être une journée complète de plus. Pour gérer les projets, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc
il y a combien de personnes qui gravitent autour d'OBA? Alors, est-ce qu'on sépare auteur, est-ce qu'on sépare prestataire pur?
Ouais.
Est-ce qu'il y a des casquettes qui sont floues?
Alors, il y a des casquettes qui sont floues. Il y a les amis d'enfance, que t'as peut-être déjà croisé. En fait, il y a deux personnes principalement. Il y a donc trois. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts. En fait, il y a Manu. Donc, c'est le pote qui m'accompagne partout. Donc, il arrive à discuter de tout et de rien. 80% ou 100% du temps qu'il est dans des conventions. Donc en fait, ça m'a permis de rencontrer plein de gens, puisqu'en fait il a chat facile. Donc il y a Cédric et il y a Isabelle. Donc en fait, ces trois personnes là en fait elles font pas d'animation, c'est-à-dire elles participent pas à faire des démonstrations elles vont relire des choses, elles vont être un peu critiques ou elles vont corriger des fautes d'orthographe. Dans le cadre de Manu, ça va être de la relecture et de la réécriture ou de la suggestion, puisqu'il fait partie des tout premiers testeurs de mes créations depuis les années 80. Donc c'est pour te dire. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, c'est le c'était à l'origine le cercle principal. Donc ce cercle, en fait, il s'est agrandi avec Fanny, donc l'illustratrice principale d'Imperium 5. Elle fait les character design. On travaille avec elle sur Lune. Ensuite, au niveau des illustrations, en fait, on a Martin puis Mélanie qui nous ont rejoints. Donc tu les as peut-être pas rencontrés, mais en fait, ils participent. Tous les illustrateurs participent sur Imperium 5. En fait, c'est le côté un peu dictatorial, c'est-à-dire que on se focalise véritablement sur Imperium 5. En ce moment.
D'abord Imperium 5 et après autre chose.
Ouais, c'est ça. En fait, après, je pourrais peut-être te réexpliquer la manière dont je veux, enfin, dont on fonctionne dorénavant, en fait. Et puis, en fait, lors d'une convention virtuelle, j'ai rencontré Frimae, donc qui devient animatrice principale sur Imperium 5. Donc, en fait, elle a pris en charge le jeu. Elle maîtrise des parties, elle fait des animations, etc., etc. Donc ça c'est cool, ça me décharge énormément puisque ça me permet de ne pas maîtriser pendant les conventions et de pouvoir répondre aux gens. Je t'explique pas comment ça fonctionne les conventions, mais voilà. Et donc les gens, en fait, t'as besoin d'être présent. Voilà. Mais t'as besoin aussi de montrer ton jeu. Et donc en fait, ce binomage est très intéressant. Voilà, travailler avec Frimae là-dessus. Ça a été vraiment un plus. Et puis, en fait, après, il y a eu d'autres auteurs qui nous ont rejoints, mais pas sur Imperium. Il y a Arnaud qui travaille sur Greca. Voilà. Et puis, ensuite, il y a eu toute la phase de recettes 2019, 2020, 2021, 2022, où, en fait, j'ai ouvert des tables, j'ai rencontré des gens via Discord. Ça a été la phase où on allait grandir. Et donc, en fait, ces personnes-là, en fait, elles sont un peu privilégiées puisqu'elles ont les informations un petit peu en avance. Je leur donne des trucs. Elles peuvent me faire des retours ou pas. Elles m'aident à leur manière. Donc, c'est des personnes, en fait, qui se sont investies énormément. Donc, celles-là, je les compte pas parce que je les compte pas dans le groupe OBA, mais comme des gens qui ont une certaine, des espèces de, j'allais dire, de sympathisants, je sais pas, voilà.
Des VIP presque.
Des VIP, ouais, exactement. Ils ont accès à des chans Discord qui sont privés, ce genre de choses. Mais le groupe principal, on est composé à peu près de 8 personnes. Donc quand on va en convention, Octogone, Cannes, on se déplace, on est à peu près à 8. Voilà. Et donc là, se sont greffés récemment, donc Arnaud en tant qu'auteur. Il était alpha tester, bêta tester, il est devenu auteur. Il y a Guillaume Jantet, il y a Merlin de la chaîne Geekpoa qui est auteur chez nous, et Fanny qui est passée illustratrice auteur sur le jeu de rôle jeu de tarot de Lune. Donc ça c'est les nouveautés 2022-2023.
Merci Patrick pour cette première partie de cette interview qui va se dérouler tout du long. On devrait retrouver dans les émissions prochaines non seulement l'interview mais également une partie de Imperium 5, le jeu qui va arriver en financement participatif très prochainement, un jeu OBA Edition. Tout de suite, je vous propose de retrouver la troisième et dernière partie des voix incarnées par Maël, moi-même et Cyril, et masterisée par Thierry.
Donc, vous réveillez chacun de chez vous. Vous étiez tous partis vous coucher, donc vous êtes tous dans votre lit. Il était peut-être 5 heures du matin. Vous venez de faire ce rêve bizarre là. Que vous n'avez pas fait depuis des années de cette maison, maison qui fait peur.
On se rappelle des événements tels quels ou ce rêve, c'est plus une mémoire que vraiment un rêve. Les éléments sont différents.
Non, c'est pas très différent non plus, mais c'est un rêve que tu n'avais pas fait depuis très longtemps. Ouais.
Et c'est un souvenir, c'est un truc qu'on a
Vous l'avez vraiment vécu.
D'accord.
Vous l'avez vraiment vécu, mais depuis, vous en avez rêvé plusieurs fois.
D'accord. Du coup, j'attrape mon téléphone. Ça va travailler quand même.
Ouais. Ce soir.
J'envoie un message. Je fais l'affiche du Louvre. Elle ressemble pas aux yeux jaunes de la. Enfin, vous trouvez pas qu'elle ressemble aux yeux jaunes de la maison hantée à Pornic? Et j'envoie aux deux.
Je regarde, je commence par voir les 15 messages de ma nana. Et je soupire, je vois ton message. Je réponds, je fais. Pourquoi tu parles de ça maintenant?
J'ai rêvé de ça cette nuit.
Tu as H-A, trois petits points. Ou A-H, je sais plus en quel sens on le met.
Je t'envoie quel vocabulaire.
Jean, est-ce que tu as une réaction, toi?
Moi, je réponds pas tout de suite à la conversation, je la vois pas tout de suite, en fait, où je reste allongé dans le lit, parce que je me suis endormi avec Félix, juste à côté, dans mes bras. Et je passe un certain temps à juste regarder le plafond, réfléchir à ce qui vient de se passer, à essayer de réassimiler cette espèce de souvenir étrange. Et quand je regarde la conversation, parce que je vois que mon téléphone n'arrête pas de vibrer, parce que les deux autres envoient des messages, je réponds juste un message en vous demandant mais de quels yeux est-ce que vous parlez, parce que moi ça me dit rien, j'ai pas vu de
toi tu les as pas vus, oui.
Et en disant pourquoi tu parles de ça maintenant, quoi.
Par contre, toi qui as gardé la statuette, alors c'est peut-être très longtemps que tu l'as pas revue, mais tu vois le message qui dit l'affiche, c'est pas comme les yeux jaunes, et tu dis putain, mais non, c'est comme la statuette plutôt. On dirait la statuette.
Je l'ai gardé dans le sens où je l'avais physiquement avec moi quand j'étais jeune.
Oui, peut-être même que tu l'as encore aujourd'hui, dans un coin.
Alors ça me fait tiquer, ouais. Je vais aller vérifier, j'ai un coin, on n'a pas de grenier, mais on a un coin où on peut entreposer les choses, où je vais aller vérifier dans mes vieilles affaires, voir si je la retrouve et si je l'ai toujours là. Et elle doit être effectivement dans un des,
cartons. En fait, en te levant, bah, t'as Félix qui grogne un peu dans son sommeil. Et du coup, tu te lèves, tu sors de la chambre assez discrètement et tu vas voir. Effectivement, tu retrouves la statuette dans un carton.
Ouais. Là, ça me perturbe vraiment, pour le coup. Juste avant, j'étais un peu mal à l'aise. Là, pour le coup, je suis vraiment...
Tu remontes la conversation, tu sais, pour revoir l'affiche, et tu vois que c'est la même chose.
Ouais. Bah, je vais prendre une photo de la statuette, et vous l'envoyer à tous les deux, et vous dire... alors, autant les yeux jaunes, moi, ça me dit rien. Par contre, bah, j'ai la statuette, quoi.
Vous voyez qu'il a la statuette.
Je vous prends une photo de ma main avec la statuette dedans.
Vous voyez la photo de la statuette, vous reconnaissez immédiatement la photo de l'affiche, quoi.
Bah, je leur envoie un petit message en disant ok, ouais, c'est clairement l'affiche, mais pourquoi t'as gardé cette horreur?
Bah, j'en sais rien, je l'ai ramené avec moi. C'était un souvenir, c'était un peu un trésor à l'époque. Du coup, je l'ai gardé, je sais pas, je l'ai mis dans mes cartons.
Par contre, tu vois aussi que c'est toi, Arthur, qui dit que tu as rêvé, que tu viens de faire le rêve. Tu vois du coup aussi le message qui dit bah, j'ai rêvé ça cette nuit.
Oui, et effectivement, je vous dis que j'en ai rêvé également et que bah, je me suis souvenu de ça et je me suis souvenu que j'avais gardé la statuette. Je ne sais pas pourquoi.
Maintenant que vous en parlez, c'est un peu étrange. On fait le même rêve, non?
Un peu, avec trois points d'interrogation.
Ah, tu vas te faire sacrer par manque de vocabulaire.
J'envoie quel vocabulaire? Avec un lol. On se retrouve toujours tout à l'heure.
Quel vocabulaire?
Ouais, moi, j'envoie juste un ouais.
On emmène la statuette.
Si vous voulez. Je sais pas. J'envoie un petit sondage dans la conversation. Est-ce qu'on emmène la statuette? Oui ou non?
Bah, on est trois, ça va aller vite.
Je mets un petit moment avant de répondre et puis je vous renvoie une photo d'une espèce de bouteille avec un truc un peu jauni. Je fais, bon, ce sera peut-être l'occasion de l'ouvrir du coup.
Effectivement, t'as gardé la bouteille et elle a jamais été ouverte.
Ah, tu parles de la bouteille de vin, pas la bouteille d'eau.
La bouteille, non, la bouteille de vin.
Parle des tic tac là qui sont tombés.
Et tu te moques de moi parce que j'ai gardé la statuette. Trois petits points.
Oui, alors moi, ça a une utilité.
La bouteille, mais je pensais vraiment que tu l'avais bu depuis le temps.
Ah, on avait dit qu'on la buvrait ensemble.
La buvrait, ouais.
La boirait. Excusez-moi, je me suis saoulé avant d'aller me coucher, hein.
Il est 5h du matin, tu peux avoir cette excuse-là aussi. Hein.
Avec deux bières.
Que nous la boivrions ensemble.
Voilà. Ouais, bon.
On se amusait tout à l'heure.
Ouais, je vais peut-être aller redormir un peu, là. J'ai peut-être...
Voilà. Et puis... Quel vocabulaire.
Je vous envoie un message, un dernier message en vous disant moi je vais marcher, je vous rejoins là-bas. Et après, j'éteins mon portable et je le mets dans ma poche.
Ok. Toi, tu vas te recoucher.
Ouais, genre 2 heures de plus, tu vois. Ouais. Histoire de...
ouais. Jean, tu pars déjà de chez toi, ouais. Tu t'habilles, tu vas faire un tour.
Je vais repasser voir Félix, lui faire un petit bisou, lui dire que je pars marcher. S'il est endormi, je lui laisse un message, une petite note. Je prends mon sac, je mets la statuette dedans, une bouteille d'eau, et puis je vais marcher et je me dirige très lentement vers le musée.
D'accord. Et toi, du coup, Vincent ?
Je prends le temps de lire les quelques messages de Manana. J'essaie de lui envoyer un message un peu... J'ai rien à me faire excuser. Mmh. Mais un message d'apaisement. Mmh. Certainement très mal rédigé. À laquelle elle va certainement mal comprendre et mal réagir. Mais moralement, je me sens un peu mieux.
Ouais.
J'ai sans doute perdu une demi-heure, trois quarts d'heure à faire tout ce bazar-là, à lire, à conspuer sur les bêtises. Et puis, je me rallonge un peu.
Ok.
J'ai prévu de me réveiller sur le coup de 7 heures, donc ça ne sert quasiment à rien de se coucher, mais moi, ça fait.
Bah, ceux qui veulent dormir, du coup, une heure ou une heure et demie de plus se rendorment. Toi, tu vas marcher un peu. Il a arrêté de pleuvoir, il a arrêté d'y avoir de l'orage. Presque bon. Enfin, avec un manteau, un bon manteau. C'est...
Je me suis même habillé un petit peu trop chaudement.
Ouais.
Et du coup, bah,
non, mais malgré le fait que tu sois habillé un peu trop chaudement, c'est quand même agréable. Ça te fait du bien, mine de rien, de marcher, de prendre l'air et d'avoir l'air qui fouette un peu le visage, tu vois.
Ouais. De me vider la tête.
Ouais. Et du coup, arrive 7h, 7h30, vous réveillez tous les deux. Vous êtes réveillés. Je suppose que vous prenez un café avant de partir pour le musée.
Ouais, c'est ça. Café, douche. Enfin, douche, café. Je m'habille. Et puis, je vais sauter dans le premier RER pour rejoindre Paris.
Ouais.
Moi, je m'arrête dans une boulangerie pour prendre un petit chocolat chaud et j'en profite pour envoyer un SMS à Félix en le rassurant, en lui disant je vais bien, je suis juste allé marcher pour me vider la tête. Et. Promis, je serai là en début d'après-midi pour ton match.
Il t'envoie un message, il te répond en te disant de prendre soin de toi et qu'il t'attendra devant l'entrée du stade avant le match, comme ça. Voilà.
D'accord. Je lui envoie un petit cœur.
Café.
Ouais.
Je me mets machinalement, je m'habille, je mets mon téléphone sans vraiment le regarder et puis je reprends un deuxième café avant de partir.
Ok. Et du coup, tu pars également.
Ouais, je prends le métro ou le RER, je suis nul par écologie, mais je me dirige vers le Louvre.
Ouais. Vous, oui.
Ouais, on habitait tous à Pornic quand on était jeunes.
Quand vous étiez jeunes, ouais.
Sur le chemin, j'aimerais bien essayer d'appeler mes parents pour s'y répondre, pour savoir si eux, ils savent à qui appartenait la maison. Leur poser la question s'ils s'en souviennent.
Tu les appelles, effectivement. Ils répondent. Ils sont un peu étonnés que tu les appelles à. Il doit être 7h30, 8h. Ça se fait pas, mais...
Je prends un peu de leurs nouvelles aussi, au passage.
Tu fais des nouvelles de convenance, puis t'abordes ce sujet de la maison. Et en fait, ils te disent que ils savent pas trop, il y avait jamais eu de nom au niveau de la maison, mais qu'elle était juste... c'est une maison abandonnée depuis des années et des années. Puis ton père, il dit, je pense que même quand c'était mon père, elle devait déjà exister et déjà être abandonnée, quoi.
D'accord. Ouais, c'est étrange.
Puisque il y a quelque chose qui est particulier avec cette maison, c'est marrant que tu t'en rappelles.
Non, j'ai juste fait un rêve de cette maison quand on était des gamins avec les potes où on était allés, je sais pas si vous en souvenez, on était rentrés dedans et puis on a vu la frousse de notre vie. Enfin, des trucs de gamins, quoi. Et je sais pas, j'en ai rêvé cette nuit et ça m'a rappelé ça et je voulais savoir, j'étais curieux.
Bon, du coup, la conversation s'éternise plus ou moins, ça dépend comment tu vois la chose, mais voilà, ils finissent par accrocher pour prendre leur petit-déj également de leur côté.
C'est
samedi matin, ils sont tranquilles.
Ça s'éternise un petit peu, puis au moment où ça commence à en arriver à ma relation avec Félix, où ils sont en train de commencer à faire des petits commentaires, je leur souhaite une bonne journée, puis je raccroche.
Ouais. Et du coup, vous vous retrouvez tous au niveau du Louvre.
Je finis vite fait le croissant et le café que j'ai chopé au passage.
Ouais.
Et puis, Bon ben, c'est pas bonne mine les mecs, hein. Pas beaucoup de vocabulaire.
J'éclate de rire.
Je t'avoue que j'ai pas beaucoup dormi.
Et en fait, vous apercevez que, effectivement, ça faisait longtemps que vous étiez pas vu physiquement, et ça vous fait du bien de vous revoir.
Même si on a pris un coup de vieux.
Ouais, c'est pas la question.
Ça faisait trop longtemps, non ?
Bon, tu nous as dit que t'avais ramené la statue. Tu l'as là ?
Oui, je l'ai avec moi. Et j'ouvre mon sac pour te montrer la statuette dedans.
Prends. Regarde l'affiche à côté.
C'est troublant. Bah, c'est la même.
Ouais. Eh, on fait un truc. Je prends la statue, je l'amène à côté de moi. Eh, venez, on fait un selfie.
on se place.
On se met devant l'affiche, on fait la photo.
Et du coup, vous prenez. Alors, selfie, c'est par rapport à l'affiche ou c'est par rapport au poisson?
Les deux. Je crois que je pouvais pas faire de meilleur jeu de mots, en fait.
Ah non, là, t'es au max.
Très bien. Donc, vous prenez ce selfie avec la statuette, avec l'affiche, avec vous trois. Première photo réunie depuis 3 ans, au moins 4 ans, peut-être.
Si je regarde la photo, je me trouve très con.
Oui.
Je suis un peu déçu de l'avoir fait. Mais...
Vous avez tous une gueule de merde. Vous êtes réveillé à 5h30, avoir essayé de redormir un peu pour certains, avoir marché et tout. Vous tirez tous une tronche pas possible. Vous avez très tiré la photo. Enfin, vous n'êtes pas très beau dessus, quoi. Mais pas très apprêté pour une photo, quoi.
On est nous, bon, quoi.
Voilà. Finalement, c'est très naturel.
C'est ça, dans le milieu de la pub, ça peut valoir gros. Hein.
Oui, bah, t'avises pas devant ma tronche.
Pas de souci.
Ah, par contre, tu m'enverras la photo.
Ouais, bah je la partage sur le chat qu'on s'est créé.
Ok. Bon, on y go ?
Vous êtes parti.
Ouais.
Voilà parti pour cette exposition. Vous recherchez effectivement, encore une fois, c'est une aile que vous ne connaissiez pas avant, qui semble avoir été ouverte pour l'exposition.
Donc c'est tout neuf ?
Non, c'est pas neuf. Non, c'est... En fait, au Louvre, il y a beaucoup de lieux aussi beaucoup de pièces qui sont là pour entreposer des œuvres. Et tu te dis peut-être c'est un endroit qui était censé entreposer des œuvres et qui a été débarrassé exprès pour faire cette exposition. Ce qui est assez étonnant parce que où est-ce qu'ils ont foutu les œuvres qui sont pas exposées, quoi, du coup.
Et puis les réserves sont pas forcément équipées pour.
Ouais, ok,
il y a du gros boulot.
Et donc, en fait, c'est une exposition. Alors, vous trouvez un plan. C'est une exposition sur 3 pièces. Vous arrivez donc à l'exposition monstrueuse.
Est-ce que en chemin, je peux arrêter quelqu'un du musée et lui dire, on vient voir une nouvelle exposition. Exposition horrible.
Monstrueuse.
Oui. Voilà, excusez-moi, monsieur. C'est basé sur une civilisation de quel endroit ?
Je crois que ça vient juste d'un artiste qui a créé ça. Je sais pas.
Ah d'accord. Ah c'est de l'art contemporain donc ou quelque chose de.
Je sais pas trop de quel genre d'art c'est, mais pour le coup, je vous avoue que je sais pas. Enfin, je serais. C'est un art que j'ai jamais vu.
Il y a sans doute un de vos collègues qui est à l'intérieur de l'expo qui pourra nous informer un peu plus.
Oui, il y a du monde à l'intérieur, mais on pourra pas vous renseigner beaucoup plus pour l'instant. Ça fait partie aussi de l'expo, ce mystère qui l'entoure.
Ouais, ça arrive de temps en temps, ça c'est pour faire des coups de com', je pense. Enfin, sans vouloir vous offenser. Hein,
mais... Vous avez l'interprétation que vous voulez. Hein, Non,
mais je sais que ça s'est fait plusieurs fois. Ouais, Banksy fait ça.
Ok.
Ça nous a donné envie d'y aller, donc c'est que ça marche.
Ouais.
Okay. Je regarde mon ticket de l'expo, tu sais, c'est le ticket, t'as la reproduction de l'affiche un petit peu à droite, et il est hyper blanc, il n'y a rien autour.
Ouais.
Ou alors, ils n'avaient juste pas d'imagination.
Il y a un truc que je fais aussi, rapport à l'affiche de... Je cherche, parce que sur nos photos, puis j'avais pas pensé à garder à l'époque, je cherche le copyright avec le nom du photographe ou...
Il y en a pas.
Et quand je te dis qu'ils sont nuls.
Non, ça c'est pas nul, ça c'est bizarre.
On a cherché, on a
trouvé. Là, c'est une photo de qualité.
Oui.
C'est pas lui avec son smartphone qui a pris la photo, quoi.
Mais ça se trouve, je disais ça pour rigoler, mais c'est peut-être vraiment Banksy. Hein. On ne sait pas.
trop dans les tons de Banksy non plus.
Voilà. C'est pas son style.
Mais c'est vrai que ça pourrait être un artiste similaire.
Ok.
Je sais pas si c'est ton domaine avec la photographie.
Ouais, ouais, mais Banksy, il fait du pochoir, il fait pas de la photo, donc... Enfin, c'est pour ça que je trouve que ça n'a pas de rapport, mais bon, après, voilà.
Oui, bah, dis-tu con aussi.
Bah, t'as pas, il n'osait pas le dire, mais
voilà.
Bon.
Hein, voilà.
Ah, je suis content de vous retrouver, là. Pas savoir.
Et donc, vous avancez à ce moment, par ces mots, dans l'exposition, vous y entrez. Vous voyez plusieurs tableaux et sculptures dans cette première pièce. C'est des tableaux et des sculptures qui vous dérangent énormément, que vous ne sauriez pas décrire vraiment. Ça représente souvent en thématique avec la mer et les poissons, mais impossible de mettre vraiment des mots dessus. C'est vraiment très... Alors que pourtant, vous êtes habitué à parler d'art, mais sauf peut-être toi, Arthur. Mais enfin, pour le coup, vraiment, c'est quelque chose qui vous, ouais, vous savez pas quoi.
C'est à la fois attirant, dégoûtant. Ouais. C'est...
En tout cas, il y a quelque chose de la fascination, de l'ordre de la fascination hein, dessus.
C'est pas le radeau de la Méduse.
Hey, maintenant que t'en parles, il n'y avait pas le tableau dans la baraque ? Oh, trop bien ! Hey, non, mais vraiment, alors, faut qu'on se refasse des soirées.
Effectivement, le tableau de la baraque, dans vos souvenirs, ressemblait à ce genre de choses-là, quand même.
Ah, ça
il y
serait,
avait un truc du style.
Ça serait le même peintre, ou en tout cas, quelqu'un de la même école de peinture.
Ouais.
Ouais, le tableau qui t'avait fait flipper, là, Arthur.
Je vais essayer de trouver un conservateur ou quelqu'un du musée. Là, il n'y a rien sur leur cartouche.
Alors, tu trouves une brochure. Mais la brochure est pareil, assez vide. Hein.
Oui, c'est pour ça.
C'est juste. Elles disent rapidement, en gros, qu'il y a trois salles d'exposition. Voilà.
Oui, c'est plus descriptif de la mise en place que de donner les informations supplémentaires. Oui, c'est ça. Donc, du coup, vous voyez je vous laisse un peu.
Un truc qui vous marque aussi, par contre, c'est que les œuvres n'ont pas de nom. C'est juste des œuvres. Elles sont juste affichées.
Elles n'ont pas non plus de description ou de date ou des trucs comme ça.
Ben, il y a une petite description de ces genres peinture. Enfin, si, mais même les descriptions, elles ne sont vraiment pas nettes. Enfin, c'est genre quelque chose genre peinture de la mer pastel. Ça ressemble même pas vraiment au tableau, quoi. C'est...
Oui, ça pourrait être n'importe quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est très vague.
Ce descriptif-là n'est pas naturel par rapport à ce genre de qualité aussi de. Enfin,
on est au Louvre.
Pour le Louvre, c'est pas censé être ça, quoi. Ouais. Alors, il y a un peu de monde dans l'exposition. Il y a un peu de monde.
Je vous laisse. Je vais écumer la salle à la recherche d'un quelqu'un du musée.
Mais tu trouves.
Poser des questions. Donc. Vous permettez, mes amis et moi, nous aurions quelques questions sur le thème de cette exposition. Les cartouches ne donnent ni indication de date, ni de provenance, ni d'artiste.
Oui.
Ni même, enfin, je veux dire, sans vouloir vous manquer de respect, vous êtes d'habitude plus précis sur la technique, sur les matières, sur...
C'est un choix de l'art. Enfin, je ne sais pas si c'est l'artiste ou si c'est juste le vendeur, le prêteur de la collection, mais en tout cas, c'est un choix de sa part.
Et vous connaissez le nom de la personne qui a mis sur pied cette exposition ?
Non. Il ne veut pas qu'on connaisse son nom.
Est-ce que il se trouve que nous pensons être en possession d'une pièce qui pourrait correspondre cette exposition.
Ah bon
c'est en voyant l'affiche que nous avons repensé. C'est un objet que nous avons trouvé il y a très longtemps.
Ah, c'est curieux.
Et nous souhaiterions en parler avec quelqu'un qui soit spécialiste du sujet. Puisque peut-être que c'est juste une coïncidence. Hein,
Alors, je vous avoue que soit l'auteur se balade ici, mais j'en sais rien en fait. Sinon, il n'y a pas grand monde qui est spécialiste de ça. C'est assez
peut-être
unique dans son genre.
Peut-être un supérieur.
Je vous assure, c'est moi en fait qui suis responsable de cette exposition. Et justement, le fait que ce soit entouré de mystère fait vraiment partie du truc. Ah,
je comprends bien, mais
Montrez-moi l'œuvre peut-être que vous avez.
Ah, suivez-moi.
Donc bon, ok, c'est une dame donc qui vient avec toi.
D'accord.
Je l'alpague au passage, mais si on veut acheter une des œuvres,
c'est pas l'achat, monsieur.
Si, tout peut s'acheter.
Ah bah, c'est pas avec moi qu'il va falloir voir ça pour le coup, c'est plus.
Mais, mais avec qui du coup?
Bah, avec le responsable du Louvre.
Ok.
Ok.
Tu veux acheter un des trucs?
Non.
Mais okay. Du coup, quand t'as.
Bien savoir combien ça coûte.
Quand t'as, cette, cette pièce que vous avez.
Donc. Je te jette un œil.
Bon bah ok, je vais ouvrir mon sac, sortir la statue et puis lui la montrer, voilà.
Alors elle regarde la statue, elle a une tête très étonnée.
Oui, c'est la même.
Et elle, elle commence à aller vers les autres pièces du coup. Elle fait, vous n'avez quand même pas... Puis elle regarde, elle avance. Puis en fait, elle va dans la troisième pièce, dans laquelle trône la même statuette que celle que tu as.
Mmh. Il y en a deux. On vient juste d'arriver, on n'a rien piqué, je vous assure. Bah, et c'est moi qui l'ai trouvé, il y a... enfin, c'est nous qui l'avons trouvé.
Non mais c'est pas possible, attendez, je reviens. Et en fait, elle part. Et elle vous laisse seule dans cette troisième pièce.
Et il y a exactement la même statuette dans
l'autre ? Exactement la même.
Moi, je vais m'en approcher pour vérifier que c'est exactement la même.
Ouais. Tu regardes au niveau des détails, même des dents, tu sais, des trucs comme ça.
On va jouer aux 7 différences.
Vous regardez aussi ?
Ah ouais, ouais, carrément.
Ouais. Ok, donc en fait... Vous êtes vraiment pris par le fait de regarder la statue, de chercher les différences, de voir. Alors, ça vous dégoûte en même temps, parce que vraiment, elle n'est pas belle, cette statue. Enfin, quelque chose qui est très, bah, lors de la fascination à nouveau, mais très repoussante, très, voilà.
Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardée.
Et en fait, d'un seul coup, vous entendez une voix qui vous dit « Donc vous qui aviez l'original ?»
Je me retourne immédiatement vers la voix.
Et vous voyez, en fait, un monsieur avec un chapeau qui vous regarde. Alors, vous voyez qu'il n'y a plus personne autour. Exactement. Non, mais, et en fait, vous voyez qu'il n'y a plus personne autour. Par contre, toi, ce monsieur, tu le reconnais immédiatement. C'est celui qui était sur le tableau que tu as vu quand tu as passé la lampe la première fois, qui est disparu aussitôt. Et il vous regarde, il vous fait... Ben, je vous attendais. Allez, merci d'avoir répondu à l'invitation. Venez avec moi. Et il commence à partir.
Vous nous attendiez et je commence à le suivre.
Donc tu le suis?
Mais je suis pas les gens qu'on connaît pas. Vous êtes qui d'abord?
Et venez mes frères.
Hein?
Et
non mais passe. Attendez monsieur, vous allez deux secondes. On veut des explications, mais présentez-vous au moins.
Bien sûr. Et il passe en fait, il pousse, il s'approche dans les tableaux, il le pousse et c'est comme s'il y avait une porte à ce niveau-là. Il y a un battement qui se passe, et il vous introduit, et en fait, le battant se referme. Il n'y a plus personne dans l'exposition. Le battant se referme, et il est passé. Voilà.
Tu n'avais pas fait un reportage sur les zones secrètes du Louvre? Je ne me souviens pas de ça.
Bah, en fait, on avait visité, mais je ne me rappelle pas de ça non plus, en fait. Effectivement, on avait vu des trucs, mais pas ça.
Depuis quand il y a des passages secrets derrière les tableaux?
Bonne question.
Vous le suivez?
Moi, je vais ouvrir le tableau, enfin, je vais pousser en appelant monsieur.
De la même manière, tu vois en fait, derrière une pièce, sur laquelle il y a trois sièges et un bureau. Et lui est assis sur le bureau. Il a son coude qui soutient sa tête et il vous regarde en souriant et fait « Et vous décidez à venir ?»
Moi, je vais rentrer.
Je pousse le battant, je passe la tête à travers, ce qui fait qu'on voit que la moitié de mon corps, le reste étant plutôt côté... Mais vous êtes qui?
Allez, je vais vous le dire. Mais bon, on se connaît déjà.
Hein?
Comment ça?
Peut-être tu reconnais ses yeux, en fait. Ils sont jaunes.
J'ai la bouche qui s'ouvre, aucun son sort, je pointe mon doigt dans sa direction... Je perds mon souffle pendant quelques secondes et je le reprends d'un grand coup. Je fais vous les yeux, Arthur, les yeux.
Ouais, le tableau aussi.
Et comment ça vous le connaissez?
La petite sirène.
C'est lui, la petite sirène.
Vous souriez, il fait, bon, allez,
pendant qu'on dit tout ça, ouais. J'ai mis la main dans ma poche, j'ai mis mes clés
ouais.
en point américain et je me suis crispé, quoi. Les scènes de muscu, les séances de muscu, là, elles vont servir si jamais il n'y a pas d'explication rapide. Il a quel âge, d'ailleurs, monsieur? Parce qu'il devait déjà avoir un certain âge sur le tableau. Pas forcément définissable, mais 40, 50 ans.
Donc, il devrait être
très vieux.
Il a le même âge.
Alors, je vous signale qu'il a exactement le même âge que sur le tableau il y a 20 ans.
Il avait quel âge il y a 20 ans?
Il avait la bonne 40-50 ans. Le même âge que maintenant.
Wow.
C'était à vous la maison à Pornic?
Plus ou moins, oui. Enfin bon.
Enfin, dans votre famille.
Ça appartenait à notre père.
J'essaie de trouver un truc qui me servirait de me défendre sans vraiment arriver à mettre la main dedans. Alors, et j'avance.
Le plus probable que tu trouves, c'est ta bouteille de vin qui pourrait servir d'objet contondant ou tranchant si tu la brises pour en faire.
Mais sinon, emborquer ta bouteille de pinard.
Bah oui. je garde mon sac. Je prends à travers le sac. En fait, je ferme la main sur le goulot. Puis je le fais comme si je tenais mon sac à droite. Puis je pénètre dans la pièce.
Vous entrez, il vous fait signe.
Oui, on rentre, mais je lui dis, vous employez des mots que je ne comprends pas. Vous nous avez appelés mes frères. Maintenant, vous parlez de notre père. Au début, j'ai pensé à un terme général, religieux. Mais vous nous prenez pour qui?
Et en fait, en t'écoutant, il vous fait signe de vous asseoir sur les sièges. Il dit, bon, je suis content que vous ayez répondu à l'invitation, mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de vous défendre, après tout, c'est pas moi qui rentre chez vous non plus, voilà.
Mais c'est quoi, c'est une secte là? Je m'assieds un petit peu abasourdi.
C'est pas une secte, c'est juste qu'il s'agit de, enfin, vous retrouver, il était temps quand même...
On se connaît pas?
Enfin, plus ou moins, mais disons qu'on fait partie de la même espèce, tout simplement.
Souvent moins que plus, hein, quand même. Hein.
Non, mais alors, on se connaît pas plus que de visu. Mais vous êtes déjà venu chez moi, mais c'est pas la question. La question, c'est plutôt justement, il s'agit que nous nous retrouvions, que vous fassiez votre choix, en fait, parce que vous l'acceptiez ou non, vous n'êtes pas humain. Enfin, vous le savez quand même. Et à ce moment-là, il y a les lumières qui s'éteignent. Et il y a la lumière verte d'une issue de secours, en fait, qui illumine toujours la pièce.
Moi, je me relève.
Et vous voyez que dans le noir, il y a ces joues écailleuses que toi, tu avais vues, et les yeux jaunes, là, qui sont bien, bien jaunes.
Je me suis dirigé pour m'asseoir, en fait, et au moment où les lumières se sont éteintes, j'ai trébuché. Ouais. La chaise est tombée, et je suis le cul par terre.
Ouais.
Avec le sac à côté.
Et en fait, il n'a pas l'air surpris par vos mouvements et tout ça. Puis il regarde sa montre, il fait « Ah, il devrait arriver d'ici 30 secondes. Il sera temps pour moi de partir et vous de faire ce choix, finalement. » Les Deltas arrivent, ils nous en veulent. Maintenant, il s'agira de se décider.
Enfin, je pense que je ne suis pas le seul à ne pas comprendre de quoi vous parlez, là.
Alors, vous essayez de vous souvenir? Il y a un mot qui vous revient dans... C'est le texte du carnet, notamment, celui que toi, t'avais lu, qui dit notamment « J'ai vu les hybrides et la mer ». Le mot « hybride » résonne un peu à ce moment-là.
Oui, mais lui, il a l'air d'être de ça.
Il dit « Bon, écoutez, notre père, Dagon, souhaite retrouver ses enfants. Vous en êtes. Vous avez vu comment vous nagez. Comment vous êtes mal à l'aise avec les autres. C'est évident. Il s'agirait d'enfin ouvrir les yeux, les enfants. Venez. » Vous entendez des alarmes qui se mettent à sonner dans le musée. Il devrait arriver vraiment très bientôt.
Je me relève. J'essaie de me diriger vers la sortie.
Ouais.
Et les alarmes, faut sortir.
Et tu dis,
c'est l'instinct
en fait,
qui passe.
Au moment où tu sais, c'est en fait le panneau que vous avez poussé, c'est maintenant, c'est un, comment on appelle ça, une espèce de barre, tu sais, qui se pousse pour ouvrir la porte.
Porte coupe-feu.
Ouais, c'est ça. Et du coup, tu commences à poser la main là, et il te dit, si c'est votre choix, vous pouvez partir. Maintenant, moi, je pars par là. Ceux qui veulent venir avec moi, vous pouvez. Et en fait, il tend juste une carte. Au plus proche, je sais pas lequel c'est, mais peu importe. Hop.
Même si c'est moi, je la saisis pas.
Tu la saisis pas.
Et je rejoins Vincent.
Tu recules également.
Ouais.
Moi, je la prends pas, mais je suis en train de regarder mes mains. Et ouais.
Elles sont normales, tes mains.
Non, mais je regarde et je me... Ouais. Pose des, enfin, je me pose pas des questions, mais
ouais.
Je me rappelle d'effectivement d'avoir toujours senti un petit peu à l'écart par rapport aux autres et au départ, parce que j'avais du mal à m'intégrer avec les gens et puis après en me rendant compte que j'étais attiré par les hommes et que ça a été tout un processus, mais je me rends compte aussi effectivement cette sensation elle est toujours là et que ça va un petit peu au-delà de ça et je suis un peu perdu.
Et en fait, tu regardes tes mains, et puis tu relèves la tête parce qu'il te tend la carte, et tu vois ses mains, et les siennes à lui sont un peu palmées.
Mmh. Je vais prendre la carte lentement et la.
Et tu regardes, en fait, il y a juste de griffonné dessus un numéro de téléphone et une adresse mail.
Mmh.
Et il fait bon, vous pouvez venir si vous voulez, les deltas sont là, moi je pars. Et il commence à partir à l'autre bout de la pièce.
Par rapport à ce qu'a vu. Oui. Vient de faire Jean.
Oui.
Je me pose une question.
Oui.
Est-ce que. Alors, ça semble un peu étrange, mais est-ce que j'ai une passion, une attirance, une alchimie avec la mer, avec.
En y pensant, oui. Tu sais que depuis que tu vis à Paris, c'est quand même pas pareil, quoi.
Ouais, un peu façon grand bleu, je rêve de la mer.
Il y a un peu une nostalgie, quoi. C'est vrai qu'on t'a toujours décrit comme un poisson dans l'eau, pour le coup. Et du coup, il vous dit simplement la vérité arrive toujours et vous finirez bien par l'accepter. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais en tout cas, sachez juste que si vous venez avec moi, c'en est fini de vos vies actuelles. Il s'agit de choisir maintenant. Et il va vers le fond de la pièce.
Donc, je fais demi-tour. Je me dirige vers le centre de la pièce.
Ouais.
Je prends mon sac. Je mets la main sur l'épaule de Jean et je fais viens, on se casse.
Donc, tu veux partir de l'autre côté.
Je pars de la porte où j'étais.
Oui,
vers le milieu. Oui. Je récupère mon sac.
Oui.
Mais je chope Jean.
Oui.
Et je retourne vers la porte.
Oui, d'accord. Viens, c'est ça.
Tu et moi, j'ouvre la porte.
Toi, tu ouvres la porte. Pour
pour qu'il puisse venir vers la lumière, entre guillemets.
Okay.
Quand tu fais ça, moi, je hoche la tête et je vais dire... ouais. Mais je pars dans l'autre direction.
Et il commence à y avoir des lampes de poche qui arrivent. Vous entendez « À terre, à terre !» Tu vas au bout de la pièce ?
Ouais, je vais aller dans la même direction que le gars.
Ok, tu disparais.
La carte dans la main, en train de la regarder. Et puis
tu disparais, les deux autres. Vous entendez « À terre, à terre !»
Au moment où il s'éloigne, il échappe à mon emprise.
Oui.
Machinalement, j'essaie de le rattraper.
Tu vas vers lui ?
Bah, vers lui, pour le rattraper, ouais.
Tu vas au bout de la pièce, tu vois qu'il y a une porte qui vient de se fermer, puisqu'il vient de l'emprunter. Est-ce que tu y vas ? Les lumières se rapprochent. Toi, t'as des lumières qui commencent à arriver.
Au contraire, j'ai été vers l'autre côté. Ouais. J'ai,
Donc tu te mets à genoux,
voilà.
Les mains sur la tête.
On laisse pas Jean.
Il y a des gens qui rentrent et qui te pointent avec un fusil.
Je peux pas partir.
Enfin, avec une mitraillette, en fait. Tu t'en vas.
Ouais.
Tu disparais. Et au moment où la porte se ferme, il y a un gars qui arrive, qui essaye d'ouvrir la porte, qui ne s'ouvre plus, et qui fait « Putain, on les a encore loupés. »
C'est tout pour cette partie de Cthulhu, créé et imaginé par Thierry. Je vous avoue que j'ai passé un très bon moment en tant que joueur. Thierry a su nous mettre dans une ambiance plutôt cool, avec des choix qui n'étaient pas si évidents à faire. Je ne sais pas ce que vous auriez choisi à ma place, ni si vous l'auriez joué de la même manière. C'est ça, le bonheur du jeu de rôle. En attendant, c'est tout pour ce soir. On se retrouve dans 15 jours pour parcourir ensemble et arpenter ensemble les voies du scénarium.
www.radio-g.fr
S'il y a bien un sujet en adéquation avec le titre de cette émission, c'est bien celui que nous allons aborder. Autant vous dire qu'il a fallu être au point pour mettre la main sur les bons interlocuteurs. Cela nous a permis d'élargir le cercle de nos connaissances. C'est donc avec une grande ouverture d'esprit que nous vous invitons à découvrir